Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous voulons aborder dans une perspective biblique les sujets qui nous touchent au quotidien.
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous poursuivons notre série de discussions sur le thème de l'amitié. Cédric est de retour parmi nous pour nous en parler. Bonjour Cédric.
Bonjour Yann, bonjour à tous. La dernière fois, nous avons parlé de la profonde amitié qui unissait David à Jonathan. Nous avons ainsi appris que le père de Jonathan, le roi Saül, était devenu fort jaloux de David et qu'il cherchait à le tuer. Jonathan fut ainsi plongé dans une situation douloureuse et difficile. Pourtant, il a choisi de soutenir David, au risque de subir lui-même la colère de son père. Aujourd'hui, nous allons lire un autre texte biblique révélant toute la force de cette amitié unissant ces deux jeunes gens. Ces moments se déroulent alors que David est contraint de vivre en cachette, loin de la face du roi Saül. Nous trouvons ce passage dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 23, versets 14 à 18.
David gagna la région désertique de Zip et s'installa dans des refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le désert de Zip du côté de Horesha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Horesha pour l'encourager, en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait très bien qu'il en sera ainsi. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Horesha et Jonathan rentra chez lui.
Nous constatons à quel point la vie de David était devenue difficile. Pourchassé par Saül, il était contraint de rechercher refuge dans des grottes reculées. En pleine nature, il lui fallait trouver où se procurer de quoi manger et boire. Il se demandait en qui faire confiance. Il devait craindre d'être trahi ou livré entre les mains de son ennemi. Il devait vivre dans l'angoisse, ne sachant s'il allait être découvert. Et pourtant, malgré ce terrible contexte, Jonathan demeure fidèle et constant envers David. Il lui prouve toute son amitié.
Oui, et il est évident que David faisait confiance en Jonathan, bien qu'il soit le fils de son ennemi. Jonathan savait où trouver David, il savait où le rencontrer. Voici l'une des preuves prouvant toute la force de cette amitié. Tous aussi, nous avons besoin d'amis en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. De même, à notre tour, nous devons être des amis pour les autres, des amis dignes de confiance.
Ainsi, Jonathan a rendu visite à David dans ce lieu désertique.
Oui, et c'est la deuxième qualité concernant l'amitié que je voudrais évoquer. Jonathan savait que la vie de son ami était en danger et il vint à sa rencontre. Il dut pour cela surmonter de nombreux obstacles. En tant qu'amis, nous aussi, nous devons être prêts à prendre l'initiative de rendre visite à celui que nous aimons et qui passe par des moments pénibles. Ce devoir peut survenir à un moment fort peu opportun et une visite peut aussi parfois nécessiter des dépenses ou un temps d'absence. Toutefois, un véritable ami fera tout ce qu'il peut pour venir au secours de celui qu'il aime et qui se trouve en difficulté.
Je remarque aussi que Jonathan est venu rencontrer David avec le désir de l'encourager et d'affirmer sa foi.
C'est exact, et nous voici avec la troisième qualité nécessaire pour qu'une amitié s'affermisse. Des liens spirituels unissaient David et Jonathan. Bien sûr, seuls ceux qui bénéficient d'une véritable foi en l'Éternel peuvent vivre une telle amitié. Et nous pouvons l'affirmer, il s'agit de la plus belle des amitiés.
Parlez-nous donc davantage de cette dimension spirituelle dans cette amitié vécue entre David et Jonathan.
Jonathan savait que la situation que David endurait perturbait sa vie intérieure. Ses émotions, ses pensées en étaient troublées, sa foi était mise à l'épreuve. David vivait dans l'angoisse, il vivait dans la peur. Doutait-il à présent des promesses de Dieu à son égard? Lorsque nous sombrons, terrassés par des émotions et des pensées négatives, nous commençons à ne plus y voir clair sur le plan spirituel. Et notre foi peut, en conséquence, défaillir aussi. David avait besoin d'une personne qui lui vienne en aide, d'une personne qui l'encourage à considérer sa situation, le regard rempli de foi. Et c'est dans ce but que Jonathan est venu trouver David. Il désirait renouveler en lui sa foi, son amour pour le Seigneur. Il souhaitait apaiser ses angoisses, il voulait le relever. C'est ce dont nos amis ont parfois besoin que nous fassions pour eux.
Et pouvez-vous expliquer la façon dont Jonathan a encouragé David?
Jonathan a rappelé à David la promesse de l'Éternel le concernant. Ce dernier allait un jour devenir roi. L'Éternel l'avait déclaré. Or, les paroles de Dieu sont certaines et cela allait sans l'ombre d'un doute se réaliser, car Dieu tient ses promesses et ce qu'il affirme se réalise. Jonathan en a alors déduit que, puisque David allait devenir roi, son père Saül ne réussirait jamais dans ses projets de le tuer. En effet, aucun homme ne peut s'opposer au dessein de l'Éternel, aucun homme ne peut changer la volonté de Dieu. Ainsi, malgré les apparences, malgré les dangers réels, David était potentiellement invincible.
Une telle conclusion a dû apaiser le cœur de David, en proie à la peur et contraint à la solitude.
Oui, et si nous voulons encourager nos amis, nous pouvons prier avec eux, leur rappeler les vérités de la Bible les concernant, les promesses de l'Éternel à leur égard. Nous pouvons leur apporter un regard spirituel sur les problèmes qu'ils rencontrent, et ainsi les relever, les affermir, les réconforter selon leurs besoins.
Merci Cédric pour ce rappel sur l'importance des amitiés qui deviennent plus belles encore lorsqu'elles se développent sous le regard de Dieu. Nous ne devons pas vivre notre foi en solitaire. Nous avons besoin de donner et de recevoir en retour les bénédictions de Dieu afin que tous nous puissions avancer ensemble. Et la prochaine fois, nous continuerons notre série sur l'amitié et nous aborderons le thème « Jésus, l'ami des pécheurs ».
La Bible se sert souvent d'illustrations, choisies à partir de thèmes de la vie ou prises dans la nature, pour nous aider à comprendre la façon dont nous devons vivre notre foi. Depuis plusieurs émissions, nous réfléchissons sur des textes contenant pour illustration celle d'un arbre.
Aussi, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un passage biblique se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 2 et 12 à 15. Hélène va le lire, et ensuite André sera de retour parmi nous pour nous guider vers une compréhension de ce texte.
Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la venue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville.
La dernière fois, nous avons lu des extraits du livre de la Genèse et nous avons appris qu'au tout début de l'histoire de l'humanité, l'Éternel a interdit aux hommes l'accès à l'arbre de la vie. À cause de leur désobéissance, il leur en a caché le chemin. En conséquence, nous sommes tous privés de la vie éternelle et nous devons tous affronter la réalité tragique de la mort. Toutefois, ne désespérons pas. Car dans le livre de l'Apocalypse, dans le texte que nous venons d'entendre, nous apprenons que certains ont reçu de Dieu le privilège de manger du fruit de cet arbre de la vie. André est présent parmi nous pour nous en parler davantage. Bonjour.
Oui, bonjour Yann. Dans ce texte tiré de l'Apocalypse, l'apôtre Jean expose la vision qu'il vient de recevoir. Le Seigneur lui a permis d'entrevoir l'avenir qu'il réserve à tous ceux qu'il aime. Nous ne savons pas à quel point cette vision est littérale ou symbolique. Une chose est certaine, nous y retrouvons ce fameux arbre de la vie. Or, cet arbre représente la vie éternelle. Autrement dit, ceux qui habiteront dans la cité de l'Éternel ne mourront plus jamais.
Mais ce texte lu laisse supposer que tous les hommes n'auront pas le droit de manger le fruit de cet arbre, et ainsi de bénéficier de la vie éternelle. Comment donc accéder à ce droit?
Vous avez raison, Yann. Le verset clé est celui-ci. « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements ».
Pouvez-vous nous expliquer ce verset? Il s'agit sans doute d'une image.
Oui, bien sûr. Le sens de ce verset devient plus clair à la lumière de ce que le passage dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, nous révèle. À travers ce verset, Jean nous apprend que les hommes et les femmes dont il est question ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau.
Et qu'est-ce que cela signifie?
La Bible, à plusieurs reprises, compare notre état de pécheur ou les fautes que nous accumulons à des vêtements sales. De même, la Bible nous enseigne que pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir marcher en communion avec lui, nous devons être parfaitement purs. Cet état est comparé à des vêtements propres, parfaitement blanchis. Comment alors se présenter devant Dieu si nous ne sommes pas purs? Comment nous purifier? La Bible nous répond. Et il n'existe qu'une seule solution, qu'une réponse. Il faut laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu est Jésus-Christ, mort sur la croix afin d'obtenir notre pardon auprès de Dieu. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes purifiés de nos fautes, que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, retrouver sa faveur et sa bénédiction.
Donc l'apôtre Jean déclare « Heureux ceux qui lavent le vêtement », mais il aurait pu tout aussi bien écrire « Heureux ceux qui mettent leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ accompli sur la croix, afin d'obtenir le pardon de leurs péchés et de renouer une relation avec Dieu ».
C'est juste, Yann. Et nous pouvons dire que ces personnes qui ont mis leur foi en Jésus sont heureuses, car elles auront accès à l'arbre de la vie qui représente la résurrection pour une vie éternelle.
Est-ce juste d'en déduire que toute personne qui n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ ou qui n'a pas lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau n'aura pas accès à la vie éternelle?
Oui, c'est un avertissement. C'est pourquoi nous encourageons tous nos amis auditeurs à tenir compte de cette réalité et à se tourner vers Jésus sans tarder.
Merci André. Que l'Éternel nous aide donc chacun à prendre au sérieux ses paroles. Et la prochaine fois, nous considérons encore une autre illustration biblique où figure des arbres.
En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.